Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Aujourd'hui, rencontre avec Romain Carlier, un homme qui s'est lancé un défi hors du commun, un parcours de plus de 3000 km en vélo en 50 jours au bénéfice de deux associations qui luttent contre le cancer infantile. Mais c'est aussi la destination de son périple qui a de quoi étonner. Romain Carlier va partir du Mans pour arriver à Auschwitz. Il nous en dit plus dans un instant. Et puis notre stagiaire, Nolan, nous parlera de sport automobile, d'abord avec une chronique sur les origines de la course des 24 heures, avant de nous faire découvrir le métier de commissaire de course. Nolan a pu échanger avec une commissaire de course qui sera présente sur les 24 heures du Mans cette année. Mais avant ça, on commence avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Et donc j'accueille Romain Carlier, il va pédaler 44 jours pour parcourir 3314 km en partant du Mans pour atteindre Auschwitz. Un défi sportif hors norme pour récolter des dons au profit de deux associations qui participent à la lutte contre le cancer et au soutien à la recherche. Mais alors pourquoi ce lien entre la lutte contre le cancer et cette destination, Auschwitz, le plus tristement célèbre des camps de la mort nazie? Et comment se préparer à un tel défi physique et peut-être aussi mental? Nous sommes avec celui qui s'est lancé dans cette aventure. Bonjour Romain Carlier.
Bonjour monsieur.
Alors je vous laisse réadapter un petit peu votre micro, le positionner, voilà. Vous avez réussi à nous rejoindre juste à temps, merci beaucoup. Vous avez 45 ans et vous allez bientôt traverser la France, l'Allemagne, la Tchéquie et la Pologne sur votre vélo. Est-ce que vous vous sentez prêt d'abord pour votre départ le 4 juillet?
J'aurais tout fait pour. Être prêt à 45 ans, c'est difficile d'avoir la certitude de le faire. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai préparé ce défi par différentes étapes, différents sas de préparation qui m'ont permis et qui me permettent aujourd'hui de répondre à votre question en disant que je me sens capable d'aller au bout de cette aventure qui va être une aventure humaine exceptionnelle.
On va donc revenir sur la genèse de ce projet. On rappelle tout d'abord que vous ne vous lancez pas dans une telle course simplement par défi sportif. Il s'agit de soutenir une cause qui vous tient à cœur. Expliquez-nous.
Ce défi, ça a été déjà dans un premier temps la convergence de différentes choses qui m'ont fait devenir un homme, un père, un éducateur, avoir appris le dépassement de soi dans le cadre du sport, avoir malheureusement perdu un combat dans ma vie contre le cancer en perdant ma mère en 2004. C'est cette situation qui, en 2017, où j'étais jeune papa, où j'ai vécu le plus beau moment de ma vie de père. Et à l'époque, j'ai appris malheureusement la perte du combat de la petite Emma, qui s'est battue pendant 2 ans contre son cancer et qui malheureusement n'a pas gagné la bataille. De là est partie cette idée folle d'un dépassement de soi, de me rendre sur un lieu de l'histoire qui ne doit jamais s'oublier. En fait, en réponse à votre question, c'est la convergence de plusieurs éléments de ma vie. Voilà, je vais me battre pour rouler au profit d'une chose que je ne comprendrai jamais, c'est comment des enfants peuvent, et des familles d'ailleurs, peuvent tomber dans ce genre de situation qui doit être un véritable cauchemar.
Alors les défis sportifs extrêmes pour soutenir une association, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, en tout cas dans l'émission Sport en Sarthe. On a eu l'occasion de relayer plusieurs actions de ce type. Pourquoi en fait passer par le sport pour soutenir une cause, Romain Carlier?
Parce que le sport m'a permis dans la vie d'apprendre beaucoup de choses. Le sport m'a appris à comprendre une défaite, à comprendre une victoire, à être humble dans la victoire, à apprendre qu'être sportif, c'est savoir se dépasser, que la souffrance devienne un plaisir, et qu'à partir de là, en y mettant du travail et de la conviction, on arrive parfois à atteindre des objectifs qui paraissent complètement fous. Voilà, donc j'ai décidé de me dépasser, et à 45 ans, ça va pas être facile. J'ai décidé de me servir de ce que m'a appris le sport, le dépassement de soi, pour combattre contre les cancers de l'enfant.
Et donc, effectivement, cette destination à Auschwitz, on a l'impression que c'est un peu une course vers l'enfer que vous menez, Romain Carlier. Il y a une dimension éminemment symbolique dans votre projet, en fait, si je comprends bien.
Oui, j'aime beaucoup cette expression de Simone Veil, qui a dit « Je n'aime pas le devoir de mémoire, l'expression, le devoir de mémoire. Mon seul devoir, c'est d'enseigner, de transmettre. Ce qui s'est passé là-bas, encore une fois, je ne comprendrai jamais ce que l'histoire a pu... vivre et l'humanité, des millions de morts. J'ai toujours voulu m'y rendre. Mes deux films préférés, comme je l'ai annoncé dans mes différentes diffusions, c'est La liste de Schindler et La vie est belle.
Deux films, effectivement, qui parlent de la Shoah. Oui.
Exactement. Voilà, j'ai toujours voulu m'y rendre et j'estime que cette période de l'histoire ne doit pas être oubliée. D'ailleurs, dans le cadre de ma préparation, je suis tombé sur des personnes qui ne connaissaient pas la ville d'Auschwitz. Ne connaissaient pas ce qui s'était passé là-bas. Donc c'est déjà un premier combat que j'ai eu dans le cadre de ma préparation athlétique et organisationnelle. C'est que des personnes de génération de 20 ans, 25 ans, 30 ans...
Mais c'était des jeunes.
Exactement. Ont pu au moins aller prendre l'information de ce qui s'était passé là-bas. Et à partir de là, j'ai estimé que c'était déjà une première victoire.
C'est la première fois que vous vous lancez sur un parcours à vélo aussi long, on le rappelle, 3000 km.
J'ai déjà fait Berlin-Amsterdam en vélo. Mais j'étais dans l'adolescence. En réponse à votre question, oui, c'est la première fois que je me lance un défi de cette nature.
Et alors, comment est-ce qu'on se prépare à une telle difficulté? Quel entraînement est-ce que vous avez mis en place?
De juin à fin août, j'ai commencé par un parcours athlétique de remusculisation de mon corps, perte de poids. J'ai perdu 8 kilos sur 2 mois. J'ai commencé tout ce qui est pompe, abdos, cryothérapie... Enfin, toute une. Ça a été mon premier palier de préparation. Ensuite, j'ai enchaîné des 15 km sur 10 jours. Ensuite, j'ai enchaîné des 30 km sur 10 jours. J'en suis arrivé à 40 km, 50 km sur une période très compliquée, à savoir l'hiver, le froid, le vent, des conditions qui ont été assez difficiles cet hiver, mais qui m'ont appris à avoir de la résistance à l'effort. Ensuite, je suis passé à des 50, 60, 70 km sur 10, 15, 20 jours. Et après, il a fallu, je suis plus dans une situation où je suis en train de gérer mon corps, gérer l'effort pour arriver correctement au défi et non pas faire le défi avant le défi. Voilà.
Alors, vous parliez des conditions difficiles de l'hiver, l'été, ça peut être difficile aussi. On l'a vu la semaine dernière, il a fait extrêmement chaud. On peut s'attendre, pareil, à de fortes températures dans les prochaines semaines à venir avec le phénomène El Niño qui a de grandes chances d'arriver cet été. Et votre parcours, il doit durer 50 jours avec seulement 6 jours de repos. Est-ce que vous serez accompagné pour s'assurer que tout se passe bien sur ce parcours?
Alors déjà dernièrement, j'ai effectué le repérage de ma première étape qui est la plus longue, qui fait 95 km jusqu'à Logron, qui s'est déroulé sous une chaleur assez forte. Et ça s'est très très bien passé, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite j'ai enchaîné 3 jours pendant les jours de chaleur dernièrement. Et également, ça s'est bien passé avec des sorties de 60 km, soit 4 heures sur mon vélo. Je résiste mieux à la chaleur qu'au froid, ça c'est clair. Et ce que je peux dire, c'est que je me suis préparé à la fois aussi à des enchaînements sous une chaleur. Et par exemple, il y a un élément qui est important, c'est partir tôt le matin, voilà, pour faire, je dirais, entre 40, 50 ou 60% de l'étape. Donc la chaleur, j'ai identifié que ça ne posait pas trop de problèmes. Ensuite, pour répondre à votre question... Sur les 50 jours, je vais être accompagné pendant 60 jours d'Alexis, mon fils de 12 ans, et de Céline, mon amie, qui vont m'assister, à savoir me suivre par l'intermédiaire du véhicule de Céline. Et à partir de là, je serai assisté en termes de soutien médical, de tout ce qui est soutien technique pour le vélo, de tout ce qui est mon alimentation, etc. etc.
Voilà. Et votre fils va même vous accompagner sur quelques portions en vélo, si j'ai bien compris?
Tout à fait, s'il le veut bien. La première étape, normalement, il part du Mans avec moi. Et puis, à sa convenance, mais il ne pourra pas supporter, je pense, l'effort dans sa totalité, mais à sa convenance, c'est-à-dire qu'on part avec 2 vélos, je pars avec 2 gravels. Et à partir de là, quand Céline me suivra à travers mes étapes, il aura la possibilité de faire un 10, un 15, un 20, un 30 km avec moi, selon ton état de fatigue, bien entendu.
Et alors, est-ce qu'on pourra suivre votre périple par les réseaux, par exemple ?
Mais bien entendu. Vous pourrez suivre mon aventure sur romain.defi2026 ou alors sur mon Facebook Romain Carlier. Voilà, je ferai état des évolutions. Alors, je ne ferai pas des vidéos toutes les minutes. J'en ferai une certainement le matin, au cours du départ, le midi, pour dire que tout se passe bien. Et le soir, il y aura une diffusion certainement de plusieurs vidéos de la journée, ainsi qu'un état des lieux de la réalisation de l'étape du jour.
L'idée, c'est aussi bien sûr de faire des dons aux deux associations, Imagine for Margot et For Emma. Vous avez un objectif de fonds récoltés alors ? Un objectif chiffré ou pas forcément ?
Oui, alors c'est les associations qui m'ont demandé un objectif de collecte, qui sont de 12 000 euros pour les associations. Je rêverais bien entendu d'atteindre cet objectif.
Et où est-ce qu'on peut se rendre pour donner justement ?
Alors sur romain.defi 2026, j'ai mis en date du 4 juin, donc un mois avant mon départ, les liens qui vont permettre aux gens de cliquer sur le lien qui les amène automatiquement sur Hello Asso et qui les amène donc sur Vers l'enfer pour le bonheur, Romain Carlier, Le Mans Auschwitz, et d'effectuer le don qui bien entendu est déductible de l'impôt.
Je vous remercie Romain Carlier. On rappelle que vous vous lancerez dans votre parcours à vélo jusqu'à Auschwitz du 4 juillet jusqu'au 22 août. Bon courage.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu.
Et restez un petit peu avec nous si vous voulez.
Radio Alpa, l'alternative.
On continue cette émission avec notre stagiaire Nolan. Bonjour Nolan.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu nous parles des origines de la course des 24 heures du Mans. Alors on t'écoute.
Alors en janvier de cette année, l'Automobile Club de l'Ouest a fêté ses 120 ans. Mais revenons un petit peu en arrière, le club est fondé en 1906 dans l'objectif d'organiser le tout premier Grand Prix de France, l'ancêtre de ce que nous connaissons aujourd'hui, les 24 heures du Mans. Au début des années 1900, les voitures changent de statut. Elles ne sont plus seulement des objets dits de luxe, mais deviennent, aux yeux de la population, des machines capables de performances hors du commun. La compétition autour du sport automobile émerge sous l'impulsion de James Gordon Bennett Jr., un riche américain. En 1899, il propose au club automobile d'organiser un prix international regroupant des équipes de plusieurs nations. Cette compétition s'appelle alors la Coupe Gordon Bennett et rencontre un franc succès avec 6 éditions d'affilée. Quand la France remporte la coupe en 1904 et en 1905, elle se retrouve deux fois de suite organisatrice et en profite pour organiser son propre événement, le Grand Prix de France. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La course est organisée par l'Automobile Club de l'Ouest, fraîchement né pour l'occasion en 1906. Le Grand Prix relie Le Mans, La Ferté-Bernard et Saint-Calais. La course passe par des routes de campagne sur de la terre battue et des zones pavées. Un circuit de plus de 103 km avec des lignes droites, des virages et le tout sous différentes conditions climatiques, ce qui augmente forcément la difficulté de l'épreuve. Pensez-y, à l'époque, les pilotes sont à la fois mécaniciens et aventuriers. Ils doivent gérer des voitures capricieuses sans aucune assistance technique pendant la course. Une course sur deux jours d'affilée, les participants doivent parcourir en totalité 12 tours, soit 6 tours par jour. C'est donc une épreuve d'endurance tout autant qu'une course de vitesse. Le 26 juin 1906, c'est 32 voitures qui prennent le départ du Grand Prix de France. Dès les premiers tours, plusieurs pannes mécaniques frappent les engins, tels que des problèmes moteurs, de pneus ou même de freins. Ferenc Zis, pilote hongrois au volant de la Renault AK, prend rapidement la tête grâce au pneu démontable Michelin. Et figurez-vous que cette invention lui permet de gagner un temps impressionnant lors des arrêts au stand. Le pilote hongrois termine le premier jour en tête et confirme sa victoire dès le lendemain avec 30 minutes d'avance sur le deuxième. Le Grand Prix de France de 1906 transforme l'automobile en symbole de performance et d'innovation. Il pose les fondations d'une passion qui dure encore. 17 ans plus tard, en 1923, Le Mans accueille sa première édition des 24 heures du Mans et l'histoire est lancée.
Merci Nolan et on reste avec toi pour découvrir le métier de commissaire de course.
Vous les avez peut-être déjà vus sans y prêter attention. Ces petits personnages orange postés au bord des pistes qui agitent des drapeaux et assurent la sécurité pour le bon déroulement de la course. Je parle bien évidemment des commissaires de piste. Bien sûr, leur travail ne se résume pas seulement à ce que je viens de dire. Avant d'aller plus loin, un peu de contexte. Le Mans a déjà vécu une année chargée. Les 24 heures moto, le Grand Prix moto et dans quelques jours, du 10 au 14 juin, ce sera autour des 24 heures du Mans automobile. Mais revenons à nos commissaires de piste. Saviez-vous qu'ils existent depuis 1906 ? C'est lors du Grand Prix de l'Automobile Club de France, l'ancêtre des 24 heures du Mans, qu'on les voit apparaître. Les commissaires sont placés de manière stratégique, en hauteur, comme sur des buttes par exemple. L'objectif derrière est de prévenir d'un coup de clairon l'arrivée des voitures de course. Cela permettait d'assurer le bon déroulement de celles-ci et de commencer à les sécuriser. En 1950, les commissaires de piste reçoivent du matériel. Ils reçoivent des balais pour retirer les graviers lors des sorties de piste, des cordes munies de grappins pour tirer les voitures et du sable pour absorber l'huile et éviter les glissades sur la piste. Mais surtout, ils reçoivent leur fameux drapeau. Le jaune, pour signaler un danger et imposer le ralentissement, le rouge, pour interrompre la course, ou encore le drapeau à damier, celui que tout le monde attend, qu'il déclare la fin de la course. Plus tard, viendront les lampes, puis la radio, devenue aujourd'hui indispensable. Ils sont des hommes et des femmes bénévoles sur le terrain, qui assurent la réglementation sportive, la sécurité des pilotes, ainsi que celle du public. Ils interviennent auprès des blessés, dégagent les débris des pistes, tout cela en étant placés eux-mêmes dans les zones les plus dangereuses du circuit. Ils risquent leur vie pour le bon déroulement de la course et le spectacle pour le public. Maintenant que nous avons introduit le rôle du commissaire de piste et sa définition, nous allons rentrer un peu plus dans les détails avec Sharon Cousage, qui est commissaire de piste. Bonjour Sharon, je te laisse du coup te présenter, savoir qui tu es, ce que tu fais en tant que commissaire de piste.
Eh bien bonjour, du coup je m'appelle Sharon, je suis amiénoise, j'ai 27 ans, je suis diplômée en commerce et en marketing et je suis commissaire de piste depuis maintenant 6 saisons.
D'accord, ça représente combien d'années du coup ?
Dans la 6e année entamée.
Pourquoi vous vous êtes engagé en tant que commissaire de piste ?
J'ai le père d'une amie qui était commissaire et qui m'a proposé c'est pas devenir commissaire, etc. Faut qu'il me la cour. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, comment on fait quoi ? Parce que pour moi, c'est des salariés quoi. Donc, et au final, pas du tout. C'est une formation de une demi-journée ou une journée à passer avec le circuit de notre choix.
C'était vraiment une opportunité qui s'est offerte à vous d'un coup.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est venu comme ça du jour au lendemain. J'ai appris sur le tas que les commissaires étaient bénévoles et c'était pas du tout des salariés quoi.
Quel est pour vous le kit parfait d'un commissaire de piste?
Ça c'est compliqué quand même parce que ça dépend de la discipline sur laquelle on officie, parce que par exemple rien qu'en voiture il y a tellement de catégories différentes que le kit parfait va être différent, et même entre la voiture et la moto c'est complètement différent aussi. Je vais prendre le kit voiture circuit. Déjà des bonnes chaussures, c'est super important, parce que comme on est très 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 longtemps debout et qu'on peut être amené à courir sur n'importe quelle surface, que c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des super bonnes chaussures qui pour randonner, besoin d'avoir des chaussures très très chères, tant qu'elles maintiennent bien la cheville et qu'on sent bien dedans, c'est le principal. Forcément la combinaison ou vêtements orange, bien sûr, qui n'ont pas l'occasion d'avoir une combinaison, parce que c'est grâce à ça qu'on nous reconnaît quand même.
Il fait chaud sous cette combinaison qui semble assez imposante.
Franchement, ça dépend. Pour exemple, j'étais au Paul Ricard week-end pour le Grand Prix Camion et le Ronacar. Il faisait 30 degrés et sincèrement, ça allait. Dans les combis 24 heures du Mans, je précise, parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes combis. Je sais qu'au Paul Ricard, ils ont les mêmes combinaisons que Fier d'être commissaire. Et c'est vrai que celles-ci, elles sont un peu plus épaisses parce qu'il me semble qu'elles sont inifugées.
D'extérieur, ça semble très imposant quand on les voit justement au bord des pistes. Ils semblent quand même d'avoir très très chaud à l'intérieur de ces combinaisons, mais ouais.
En fait on sait quand même s'adapter, même si le temps il est hyper froid ou il est très très chaud, on sait quand même pas mal s'adapter.
Vous allez participer en tant que commissaire de piste aux 24 heures du Mans cette année. Du coup ça fait combien de temps que vous y allez et est-ce que c'est un immanquable dans votre emploi du temps de commissaire de piste?
Du coup ça sera mon 6e 24 heures du Mans cette année, que j'ai fait mes premiers 24 heures l'année où j'ai obtenu ma licence du coup, donc mes premiers c'est 2021, donc ouais on compte, c'est ça, c'est mon 6e 24 heures du Mans cette année. Et effectivement, oui, je pense que je peux me passer de n'importe quelle autre épreuve, mais pas celle-ci. Parce que c'est vrai qu'une course qui est exceptionnelle, même si elle dure 24 heures, ça reste quand même un sprint, hein, qu'on peut se passer. Mais c'est aussi d'un point de vue santé mentale et amicale. Parce que c'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est la semaine simple. C'est vrai que j'y vais 10 jours quand même. Donc ça fait comme une petite semaine de vacances, on va dire. Donc ça fait toujours du bien d'être avec les amis pendant 10 jours. Et puis on a la chance d'avoir une équipe pendant les 24 heures, justement, qui est internationale. Donc on a trois grosses parties dans l'équipe. On a la partie française, avec où les amis sont là déjà depuis quelques années maintenant. Et on a aussi les Hongrois et les Néerlandais. Et c'est vrai que eux, c'est pareil, ça fait aussi quelques années qu'ils viennent maintenant, et comme on les voit une à deux fois par an, c'est vrai que ça donne envie, ça donne aussi cette envie de ne pas rater cette course, parce qu'on veut voir nos amis, en fait.
Et c'est un esprit familial, en fait, derrière ce regroupement.
Complètement. Mais c'est vrai qu'on a vraiment, ce gros esprit famille, et ce gros esprit d'entraide, de bienveillance. On est tous bienveillants entre nous dans mes équipes. Après, je sais que c'est pas forcément comme ça partout, malheureusement. On sait rire, mais on sait aussi bosser, et il faut bosser, le plus assidûment possible.
Pour rester dans les émotions, du coup, quel est votre souvenir, je dirais, le plus marquant en tant que commissaire de piste?
Ça, c'est compliqué parce que des souvenirs, il y en a beaucoup, du coup. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre un moto et un voiture. Pour la moto, je vais prendre forcément la victoire de Zarco l'année dernière au Grand Prix de France, au Mans. Et j'ai même pas de mots pour exprimer, je pense, moi et toute mon équipe, la joie qu'on a ressentie. C'était un moment inoubliable. C'est vrai que j'ai mon meilleur ami qui est avec moi en pote, Evan. Et on est très fans de Zarco tous les deux. Et on a vécu cette victoire de Zarco ensemble. Et à la fin de la course, on a le droit d'aller au bord de piste pour saluer les pilotes. Je pense que j'aurais pu tomber 1000 fois tellement je ne voyais pas le bac à gravier. Je pleurais tellement que je voyais tout flou. Je fermais les yeux, j'avais les yeux qui me piquaient, c'était n'importe quoi. Enfin, et on est arrivé en bord de piste. Joanne est passée devant nous au ralenti et on s'est tous pris dans les bras. Enfin, c'est vraiment l'ambiance des tribunes. À partir du moment où il est passé en tête, le circuit a complètement changé d'ambiance. Et à chaque tour, à chaque endroit que Joanne passait, c'était une grande fête tout simplement. De toutes les tribunes qui l'acclamaient, qui criaient à chaque passage, c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est très belle. Et puis en voiture, pas un souvenir principal, mais je pense que c'est mon week-end de F1 à Zandvoort aux Pays-Bas l'année dernière. Je pense que je ferai difficilement un meilleur week-end que celui-ci, à part peut-être cette année au même endroit du coup, mais Zandvoort c'est sincèrement quelque chose, que ce soit le circuit, l'organisation, les fans, l'équipe que j'ai eue, l'accueil, franchement tout était juste parfait.
Et vous payez les billets pour faire votre rôle de commissaire de piste?
Ah oui, il faut savoir que même si c'est en F1, on est 100% bénévole, hein. Ça ne change pas, hein, qu'on passe du national en France à l'international, ça change pas, on est bénévole. On est défrayé quelques fois, mais voilà, on est jamais rémunéré, hein. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est vraiment pour le coup de la passion. C'est du temps, est-ce qu'on a le temps? C'est aussi des finances, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours peu cher. C'est différent, par exemple, si on veut aller à Fac, si on veut aller à Bakou. C'est que je fais les circuits les plus proches, déjà, parce que je suis beaucoup plus enclin à aller sur des grands prix en Europe, parce qu'on a énormément de très beaux circuits en Europe, et il faut en profiter avant qu'ils disparaissent tous, malheureusement. Pas quand j'y vais, 18 euros aller-retour de péage, je paye mon plein. Là-bas, on a un espace camping écrit pour les commissaires, donc je dors en temps. Du coup, mon week-end ne me revient pas super cher par rapport à Zandvoort, où la route elle est beaucoup plus longue. On essaie de louer un truc pour dormir, parce que là-bas avec l'air marin, etc., c'est un peu plus compliqué. Deux prix différents, mais c'est deux grands prix qui sont abordables en tant que commissaire. En tout cas, quand on habite dans le nord de la France, c'est plutôt abordable.
Je vais maintenant m'attarder à un autre sujet. Dans le domaine automobile, les femmes sont souvent moins nombreuses que les hommes. Est-ce le cas aussi chez les commissaires de piste?
Alors oui, mais ça se développe de plus en plus. Depuis que j'ai commencé, on voit vraiment de plus en plus de femmes, et qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, moi en tant que femme, ça me fait vraiment plaisir de voir que le quota augmente énormément, et même dans les équipes en général. Enfin, je trouve qu'avoir une femme, ça fait quand même beaucoup de différence sur l'humeur d'une équipe. Je trouve que c'est différent, et moi j'aime bien officier quand il y a d'autres hommes avec moi. Ouais.
C'est sûr que c'est important aussi d'avoir une mixité, et c'est vrai qu'on peut le voir apparaître aussi de plus en plus dans l'automobile en lui-même, que ce soit au niveau des ingénieurs ou même au bord des pistes, justement comme vous le disiez, il y a de plus en plus de femmes, et ça c'est très important. Est-ce que être une femme, pardon, a déjà posé problème dans l'exercice de votre mission en tant que commissaire de piste?
Alors pour moi non. Après je sais que malheureusement ça peut arriver. On n'a pas toutes les mêmes morphologies, donc je veux dire une personne qui va être assez petite, un peu menue, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué parfois, surtout dans la moto, parce que les motos elles sont très très lourdes. Mais je veux dire dans mon équipe moto on a une fille qui est relativement petite et qui est toute fine, et franchement ça ne l'empêche absolument pas de relever des motos. Mais je pense que ça a déjà dû arriver entre guillemets d'être un frein à quelque chose, mais dans mon cas ça n'a jamais été, et on ne m'a jamais empêché d'exercer quoi que ce soit, que ce soit aller au pilote, aller chercher la moto, aller remorquer la voiture, ou alors faire lever la voiture avec un torpion, ramener les énormes coussins Doctor en bord de piste pour les motards, pareil. Ça ne m'a jamais, j'ai jamais été empêché de faire quoi que ce soit, et au contraire je trouve qu'on a beaucoup cet esprit d'entraide et de vas-y tu vas le faire, tu l'as jamais fait, c'est pas grave, tu vas le faire quand même et puis tu verras, ça va bien passer. On est très dans cette bienveillance, je trouve, au sein de mes équipes en tout cas. Là tu vas le faire parce que tu l'as jamais fait, il faut que tu le fasses, et en plus tu verras, je suis sûr que tu vas bien le faire.
Oui, c'est aller essayer de tester ses limites et puis justement de s'aventurer un petit peu.
Exactement, c'est ça, parce que c'est vrai que par exemple même moi hein, je suis pas grande, je suis pas petite non plus, mais je suis pas un poids plume quoi, et c'est vrai que même parfois quand on soulève des voitures, je pense à celle d'Adrien David l'année dernière, la LMP2 de Adrien David, une fois qu'elles sont levées et qu'il faut les stabiliser avec les sangles, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, parce que quand on est pas très lourd et qu'on n'a jamais sanglé, ça peut être compliqué, mais franchement ça passe. Je peux juste rajouter que si vous souhaitez devenir commissaire, foncez, parce que je pense que c'est une expérience de vie qui est exceptionnelle. Allez renforcer les petits circuits, il y en a besoin, surtout Je pense aux Bijan, les Denon, Dijon, Croix-en-Ternois, Circuit Carole. Je pense que j'en oublie beaucoup, hein, l'anneau du Rhin aussi. Tous ces circuits-là, franchement, ils ont besoin de monde. Allez-y, allez sur des petites épreuves, c'est la meilleure façon de vous former. Très sincèrement, je pense qu'on apprend beaucoup plus sur des petites épreuves comme la Coupe de France, les trophées historiques et tout ce genre de petites épreuves qu'on peut retrouver justement sur des circuits qui ne sont pas forcément du nom des 24, du circuit des 24 heures par exemple. Je pense que c'est là où on est le mieux accueilli, c'est là où on apprend le plus et c'est là où on se fait le plus de contacts aussi. Donc franchement, faut foncer, mais tête baissée quoi.
Eh ben merci beaucoup pour ce message. Je vous remercie Sharon Cousage, merci d'avoir répondu présent pour notre interview pour Radio Alpa. Et
avec
puis, voilà.
Grand plaisir.
Chaque année, plusieurs milliers de bénévoles sont présents tout autour des circuits. Certains se retrouvent, d'autres se découvrent, et pour reprendre le terme utilisé par le site officiel des 24 heures du Mans, ils sont comme une famille.
Radio Alpa, l'alternative.
Merci Nolan pour ce sujet avec Sharon Cousage, commissaire de course présente aux 24 heures du Mans cette année du 10 au 14 juin. C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com, dans les infos de la rédaction avec toutes les précédentes. Sport en Sarthe revient vendredi 12 juin. Et avant ça, on se retrouve bien sûr lundi 8 juin pour C'est d'Actu sur Radio Alpa, bien évidemment.